La vie avant tout, une chronique d'écologie intégrale en compagnie de Dominique Vachald et de ses invités. Bonjour à vous, chers auditeurs, heureux de nous retrouver dans notre émission La vie avant tout. Aujourd'hui, nous allons accueillir avec Dominique Delphine qui va nous parler de ce projet de l'Église verte. L'Église verte, rappelons-le, est un label pour permettre aux paroisses, aux communautés chrétiennes locales de s'engager sur le chemin de la conversion écologique, donc de prendre plus à cœur le souci de l'écologie dans l'Église, tout à fait en lien donc avec la lettre Laudato Si. Voilà, je te passe la parole, Dominique, pour nous présenter brièvement Delphine et donc son action dans l'Église verte.
Bonjour Delphine.
Bonjour Dominique.
Bonjour Delphine et bonjour à tous nos auditeurs. Donc aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Delphine qui est chargée de projet Église verte au niveau national et qui va nous présenter aujourd'hui justement un peu dans un premier temps la genèse de l'Église verte et le lien entre l'Église verte et Laudato Si pour faire le lien avec nos émissions précédentes. Donc Delphine, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais justement faire un petit peu la genèse de l'Église verte et en faire un lien avec Laudato Si?
Oui, bien sûr. Donc Église verte, c'est une démarche économique, œcuménique, pardon, qui est née en 2017. Elle est vraiment portée par les trois églises chrétiennes de France, donc la Conférence des évêques de France côté catholique, la Fédération protestante de France côté protestant, et l'Assemblée des évêques orthodoxes de France pour les orthodoxes. Et c'est vrai qu'il y a eu ce souhait en France que ce soit une démarche œcuménique portée par les églises, et chacune de ces trois églises nomme un délégué qui va administrer Église verte au quotidien. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment un représentant de chacune des églises qui est membre du bureau d'Église verte. Voilà. Et donc cette démarche, elle n'a pas été inventée en France. Le label existait dans d'autres, enfin, en tout cas, le label Église verte s'est inspiré d'autres démarches qui existaient déjà dans d'autres pays, notamment une initiative qui s'appelle Echo Church, qui a été créée en Angleterre. Et Église verte a repris le fonctionnement proposé par Echo Church. Donc j'y reviendrai un petit peu sur le fonctionnement beaucoup plus concret. Donc comme je vous le disais, Église verte a été lancée officiellement en 2017, mais bien évidemment, la préparation s'est faite bien avant 2017. Et c'est vrai que dans les points vraiment forts qui ont permis la naissance d'Église verte, il y a eu la COP21. Donc la COP21, elle avait eu lieu en 2015, l'année de la sortie aussi de l'encyclique du pape François. Et cette COP21, elle a permis finalement que les chrétiens initient une démarche œcuménique déjà en 2015. Il y a eu un jeûne pour le climat et puis pas mal d'autres événements avec une célébration, donc beaucoup d'événements au moment de 2015. Et la sortie de l'encyclique du pape la même année a permis de redonner un élan très fort pour l'Église catholique sur l'écologie, puisque ce n'était pas un sujet complètement nouveau côté catholique. Il y avait déjà des réflexions qui avaient été initiées à la Conférence des évêques de France. Mais la publication de l'encyclique Laudato Si a permis voilà, ce nouvel élan côté catholique, et notamment la création du réseau qui est important, le réseau des référents diocésains à l'écologie intégrale. Donc ces référents à l'écologie intégrale, il y en a désormais dans presque tous les diocèses de France, et c'est important pour nous parce que la plupart des référents à l'écologie intégrale des diocèses sont aussi ambassadeurs Église verte et peuvent avoir la double voix, la double parole pour Église verte et puis pour leur mission plus diocésaine. Et voilà, on espère vraiment que la nouvelle exhortation du pape, Laudate Deum, qui est sortie le jour de la Saint-François, le 4 octobre, va donner encore un élan plus fort aux communautés catholiques pour qu'elles puissent démarrer ou poursuivre leur démarche écologique en Église, en communauté. Donc c'est vrai qu'on dit aussi à toutes les communautés qu'on reçoit que évidemment le label Église verte n'est pas une fin en soi, mais l'idée c'est de débuter, de rentrer dans la démarche et de souhaiter finalement démarrer ou renforcer la conversion écologique de la communauté. Donc ce qu'on propose c'est un éco-diagnostic en ligne. Cet éco-diagnostic, il est organisé en 5 domaines. Donc, Dominique l'a présenté, enfin, on a parlé un petit peu rapidement. Les cinq domaines, c'est tout ce qui touche aux célébrations et à la catéchèse, les bâtiments, le terrain, l'engagement local et global et les modes de vie. Donc, l'idée, c'est de pouvoir répondre aux questions de ces cinq domaines pour se situer et après de progresser d'année en année. Donc, ce label, c'est, comme je disais, une démarche de progression. Et la progression, on l'a illustrée pour Église Verte France par des plantes bibliques. Donc, c'est cinq ni enfin, c'est un niveau initial, puis quatre niveaux qui illustrent vraiment cette progression. Donc, de la plus petite des graines, la graine de Sénévé, au plus grand des arbres, le cèdre du Liban, qui sont présents dans la Bible. Et on obtient finalement un niveau de label et on progresse dans le niveau de label en fonction du résultat aux différents domaines de l'éco-diagnostic. Donc pour être vraiment très concret, puisque c'est l'objet de cette rencontre aujourd'hui, par exemple sur célébration et catéchèse, il y a des choses qui peuvent être très simples à mettre en place pour pouvoir progresser et être vraiment dans une dynamique de conversion écologique. Ça va être que le prêtre ou le pasteur, par exemple, aborde dans ses homélies ou ses prédications le respect de la création. Mais ça peut être aussi de choisir des chants plus tournés vers la création, d'organiser un événement pendant le temps pour la création qui a lieu du 1er septembre au 4 octobre. Donc voilà, ce sont des choses qui sont vraiment tournées vers les célébrations et la vie de l'Église, mais on peut aller de façon encore plus concrète sur des choses comme réfléchir aux fleurs qui vont fleurir l'autel, par exemple, de se dire est-ce que c'est des fleurs que j'achète, d'où est-ce qu'elles viennent, est-ce que je les produis, comment je les produis, est-ce que je pourrais améliorer la production de ces fleurs ou l'achat de ces fleurs. On a aussi des choses autour des bougies, ou notamment côté protestant, il y a les vers de la Seine. Est-ce que ce sont des cierges ou des lumignons qui vont être en godets jetables ou est-ce qu'on a pu avoir une réflexion sur les godets, des godets réutilisables ou sans godets, voire sur la cire, avec de la cire parfois recyclée, parfois plutôt végétale, plutôt que de la cire en paraffine. Donc il y a vraiment des choses très concrètes. L'idée en remplissant le questionnaire, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe déjà. Ce qu'on fait déjà, donc ça permet aussi de valoriser ce qu'on fait déjà. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on fait souvent plein de choses assez spontanément et heureusement. Donc ça permet de valoriser ce qu'on fait déjà, mais aussi d'avoir plein de nouvelles idées. C'est vrai que, par exemple, les fleurs, on n'aura pas forcément eu l'idée d'aller se renseigner sur la provenance des fleurs. Donc ça peut être une action à mener en communauté pour pouvoir réfléchir sur ce sujet-là. Donc, il y a aussi des questions sur est-ce qu'on aborde la création, notamment dans les aumôneries ou la catéchèse des enfants? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, avec les adultes, est-ce qu'il y a eu un travail autour de l'encyclique Laudato si, et peut-être aujourd'hui autour de l'exhortation Laudate Deum? Donc, il y a voilà, beaucoup de choses sur ce sujet-là, de la célébration et de la catéchèse. Sur les bâtiments, évidemment, c'est aussi très concret, parce qu'on va avoir pas mal de choses concernant le suivi des consommations d'énergie. Est-ce qu'on a déjà un suivi? Est-ce qu'on pourrait réussir à le mettre en place? Est-ce que nos bâtiments sont isolés? Comment ils sont isolés? Comment est-ce qu'on produit notre eau chaude? Comment on produit notre énergie aussi? Comment on utilise l'eau, par exemple, pour les toilettes? Est-ce qu'on a de l'eau de pluie pour les toilettes? Est-ce qu'on a réussi à mettre en place des toilettes sèches? On aimerait bien un jour qu'il y ait plusieurs communautés qui se lancent dans ce challenge de mettre en place des toilettes sèches. Il y a aussi des choses autour de la mobilité. Est-ce que c'est pratique pour les vélos ou les trottinettes de se garer près du lieu de culte? Ou est-ce qu'il n'y a rien? Et c'est vrai que, on sait que quand il y a des arceaux qui permettent aux personnes de stationner leur vélo en sécurité, et ben ça permet de favoriser finalement le nombre de personnes qui viennent ensuite à vélo. Voilà pour les bâtiments. Pour les bâtiments, on propose des questions assez globales et puis après des questions plus précises pour chaque bâtiment de l'église, s'il y a une salle paroissiale ou d'autres lieux divers pour lesquels. Il y a des questions notamment sur le chauffage et l'isolation. Ensuite, donc sur le terrain, C'est vrai qu'on pose pas mal de questions assez concrètes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées pour favoriser la biodiversité? Par exemple, est-ce qu'il y a des nichoirs à oiseaux? Est-ce qu'on met en place de la nourriture s'il y a des hivers un peu rigoureux? De l'eau aussi en période de sécheresse? Il y a pas mal de questions sur la biodiversité, mais aussi plus largement comment on s'associe à des associations locales. Par exemple, la LPO, qui est la Ligue de la protection des oiseaux, elle propose de devenir refuge LPO. Donc on peut peut-être choisir en église de devenir refuge et ensuite il y a tout un cadre proposé par la LPO pour obtenir c'est une sorte de certification également. Pour la LPO. Il y a également des choses au niveau de la culture sur le terrain et comment est-ce qu'on cultive également? Est-ce qu'on cultive des fruits, des légumes, des plantes aromatiques, des fleurs par exemple? Voilà, sur le terrain, on parle du compost bien sûr, on parle de l'eau de pluie aussi. Est-ce qu'on a testé de mettre en place une cuve de récupération de l'eau de pluie si on peut le faire? Et puis on fait toujours un petit tour vers la spiritualité. Par exemple, c'est est-ce qu'on encourage les membres de la communauté à utiliser le terrain et à en profiter pour se ressourcer, pour contempler aussi la nature qui est présente. Sur le quatrième domaine, donc c'est l'engagement local et global. Donc on parle pas mal de solidarité quand même dans ce sujet-là. Parce que, ben, comme nous le dit le pape dans l'encyclique, tout est lié et on parle beaucoup enfin, on n'utilise pas forcément le terme écologie intégrale dans l'Église verte, mais on en parle beaucoup et c'est très important pour nous qu'il y ait ces aspects-là qui soient également présents. Voilà, on propose dans ce domaine-là, est-ce qu'on organise des choses, notamment avec des associations locales? De solidarité, mais aussi autour de l'écologie. Donc ça peut être intéressant. On propose pas mal de choses. Par exemple, quand il y a des rencontres de la communauté avec des repas, comment sont produits ces repas? Est-ce que c'est la communauté qui offre un repas ou qui propose une participation aux frais pour des repas et d'où viennent les aliments de ce repas? Et si ce sont des aliments emportés par les paroissiens, est-ce qu'il y a une proposition et une suggestion de faire des repas plutôt local, bio éventuellement, voire végétarien. Donc il y a des suggestions par rapport à ça pour essayer de s'améliorer. Et ensuite, sur le dernier domaine, donc c'est tout ce qui a trait au mode de vie. Et c'est vrai que là, sur les modes de vie, on propose pas mal l'encouragement à l'action des membres en tant qu'individus, notamment. Donc par exemple, de suggérer d'utiliser plus les modes doux. Pour venir au lieu de culte quand c'est possible, voire de favoriser le covoiturage. Je ne sais pas si l'application Gomès est utilisée en Corse, mais il y a des outils qui existent qui permettent de mettre en lien les paroissiens ou les membres d'église. Et puis évidemment, après, c'est au niveau du réseau local, ça peut être intéressant. Et c'est vrai que dans ces questions-là, il y a aussi la suggestion, par exemple, de faire attention, de tester son bilan carbone, de mettre en place, pourquoi pas, par la communauté ou avec des membres de la communauté, un vide-grenier. Ça, il y en a plein qui le font déjà. Et ben, ça rentre dans l'éco-diagnostic. Et puis, c'est vrai que l'argent derrière peut être réutilisé pour d'autres projets dans l'Église. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant. Sur d'autres questions, on parle également de l'investissement éthique et décarboné. C'est vrai que toute la question de l'épargne personnelle ou de l'épargne de la communauté, si elle en a une, elle est quand même essentielle. Quand on sait que la majorité, qu'il y a beaucoup de banques qui investissent notre épargne dans les énergies fossiles. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut commencer à essayer d'avoir une réflexion pour trouver une banque qui soit peut-être plus éthique. Donc ça, ce sont plein de questions. En gros, il y a vraiment des questions qui sont dans plein de domaines très différents. Et ce que nous, on dit, c'est de commencer tout petit. Là, j'ai cité beaucoup de choses très variées. Ce qui est essentiel pour la communauté, c'est de commencer tout petit et de choisir quelques actions qui donnent envie. là où on a envie d'aller, là où on se sent capable d'aller, et là où on sent que l'Église, elle est en mesure de penser.
La vie avant tout, une chronique d'écologie intégrale en compagnie de Dominique Vachald et de ses invités.